sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales
faciosos. Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore.
Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Gregorio Lázaro, fils et petit-fils d'exilés espagnols, et Didier et Emeline, ses enfants, racontent le parcours de leur famille. Une famille divisée, lors de la guerre d'Espagne. Une partie suit Franco, l'autre la fuit. C'est ainsi que la mère de Gregorio, Dolores, quitte l'Espagne avec une partie de sa famille pour rejoindre la France. En février 1937, au moment de la chute de la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne, elle fuit. À pied, sur la Carretera de la Muerte, ou Route de la Mort. Un épisode bien moins connu de la guerre d'Espagne que celui de Guernica, qui aura fait pourtant beaucoup plus de morts. Deux ans plus tard, elle fera partie des 500 000 Espagnols qui auront passé la frontière lors de la Retirada, nom donné à l'exode massif de la population espagnole suite à la prise de Barcelone par Franco fin janvier 1939. Elle se retrouve alors avec une partie de ses proches dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, en France, avant de rejoindre le camp de la Comble-au-Loup, puis celui des Alliés, à côté d'Angoulême. En 1940, elle échappe au convoi des 927 Espagnols, premier convoi civil déporté de France vers le camp de concentration nazi de Mauthausen, en Autriche. Un peu plus de la moitié d'hommes et de jeunes hommes y restent, tandis que l'autre partie, femmes et enfants, est livrée à la police franquiste à Irún, en Espagne. La mort de Dolores joue un électrochoc pour ses petits-enfants. Pour ne pas oublier et comprendre d'où ils viennent, ils décident de parler de son exil sous la forme d'un spectacle. Flamenco, una república de Dolores. Quant à son fils, Gregorio, il est passeur de mémoire, président de l'Association des Espagnols de Charente, et membre du réseau Caminar, coordination nationale d'organisation mémorielle des descendants et amis des exilés de l'Espagne républicaine.
Je m'appelle Gregorio Lázaro. Je suis donc fils et petit-fils de républicains espagnols. Ma mère a passé les Pyrénées en 1939 et elle s'est retrouvée dans le camp des Alliés à Angoulême. Et ensuite, elle s'est retrouvée dans le camp de concentration de la Comble-au-Loup à Ruel. Après la guerre, les Espagnols se sont retrouvés à Ruel, et c'est là que je suis né, à Ruel en 1946.
Je suis Didier Lázaro.
Je m'appelle Emeline Lázaro. Eh bien, en fait, on est frères et sœurs, et du coup, il y a une dizaine d'années, on s'est rencontrés sur nos idées et on a essayé de partager nos arts, puisque je suis danseuse de flamenco depuis une vingtaine d'années. Et mon frère est slameur depuis également une vingtaine d'années. Et on a voulu partager nos passions et en même temps nos idées sur un spectacle. On a commencé par un spectacle hommes et femmes. Et petit à petit, on avait envie d'évoquer l'histoire de notre famille. Et on s'est lancé sur l'exil de notre famille espagnole et leur arrivée en France. Quelles étaient les conditions ?
Alors, à la maison, on ne parlait pas trop de cette histoire. Hein. Disons qu'ils voulaient oublier. C'était les vaincus. C'était les vaincus de cette guerre d'Espagne. Donc, ils ne voulaient plus en parler. Ils étaient dans un pays étranger. Il fallait faire attention parce qu'ils nous disaient toujours « tener cuidado, de no me meterse en política ni todo eso. Faites attention, ne vous mettez pas en politique et tout. » Et ils avaient toujours peur de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Ils avaient peur de retourner à Franco. Et c'était un petit peu l'ensemble des Espagnols, ils avaient un peu cette peur.
Aujourd'hui il fait beau et la douceur sur ma peau me rappelle les jours de marché, la main de ma mère. Ce soleil si doux, c'est Barcelona et la calle Santa Fe. Tout le monde dans les rues qui riait, ça parlait fort et ça chantait la victoire. sûr qu'on ferait mieux qu'en 31 El Frente Popular. On y croyait, on n'était pas comme ces macaroni et leur duce. Nieves avait écrit sur un mur, heureux le pays qui n'a pas besoin de chef, Adolphe Brecht. Et on se marrait, tout gonflé de liberté, on se moquait des Allemands qui avaient voté pour un petit Napoléon et les Français qui continuaient à jouer les poules mouillées. Mais ces souvenirs ne me font plus sourire.
Ay, mi ángel perdido.
Mami.
Ninguna idea vale la pena de una guerra, ¿sabes? No te pongas en política. Ay, mi alma, por favor, no haga eso. Que si no te van a matar.
Mais oui, mamie, mais oui, mais si je m'occupe pas de politique, mais c'est la politique qui va s'occuper de moi.
Elle m'a toujours dit, va pas faire de manifestation, c'est ce qu'on dit dans notre spectacle, no te pongas en política, ne te mets pas dans la politique, sinon ils vont venir chez toi, ils vont te tuer. Donc elle voulait surtout pas que je m'occupe de politique et que moi, à cette époque-là, j'écoutais Assassin et tout, c'était le hip-hop de 90 qui disait, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. Donc ça résonnait comme ça, et que justement c'est là où je voyais que c'était quand même important de se mêler de la vie publique, quoi, que c'est nous tous qui construisons aussi le monde dans lequel on vit.
C'était ça leur slogan, a esa canalla facha de mierda, et nous on leur rétorquait, no pasarán, no pasarán. Mais un peu partout, ils sont passés, ils passent, et ils passeront.
Donc, ils voulaient oublier, et puis ils sont vite intégrés, hein, puisqu'il y a eu les 30 Glorieuses. Il a fallu, après la guerre, reconstruire la France, à partir des années 50. Parce que quand même, de 44, la fin de la guerre, 45, jusqu'aux années 50, les Espagnols pensaient revenir en Espagne. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus revenir en Espagne, là, il a fallu s'intégrer. Et comme il y a eu la reconstruction de la France, ils ont participé à cette reconstruction, par tous les travaux qui étaient difficiles. Hein. C'est eux qui ont eu, bien sûr, les travaux les plus durs. Et puis, ils ont participé à ce renouveau de la France. Et par contre, nous, les enfants, ils nous ont sécurisés, ils nous ont naturalisés.
Au décès déjà de notre grand-mère, moi, j'ai été très affecté. On a toujours eu un lien très fort avec l'Espagne. Et c'est au moment où elle est partie qu'on s'est rendu compte de l'importance de cette femme et aussi l'importance de notre origine en fait espagnole et pourquoi ils sont venus en France. Et du coup, tout l'impact politique de leur venue et aussi les raisons qui ont fait qu'ils ont quitté notre grand-père, le Pays Basque, et notre grand-mère, l'Andalousie.
Je suis Dolores Lara Vallejo, de la Plaza de la Merced, en Málaga. On m'appelle Lola. J'ai 23 ans et no entiendo nada de política. O sea, no, ni me interesa. Yo lo que quiero es salir con los amigos, pasarlo bien. Ir a ver a mi amiga Pilar, qué bien lo pasamos. Bueno, por cierto, tengo un novio ahora. Está en la Fuerza Aérea. No tengo que ir a la playa de la Malagueta para comer chanquetes. Eso sí nos gusta. La guerre nous sépara le jour où les amis politiques de mon frère viendront nous chercher en voiture pour nous emmener loin de Malaga. Je suis une femme libre.
La famille de ma mère part de Malaga en février 37, lorsque il y a les nazis et les Allemands qui arrivent à Malaga et ils sont obligés de s'échapper. Et ils prennent la Carretera de la Muerte. La Carretera de la Muerte, c'est la route de la mort. C'est la route qui va de Malaga à Almería. C'est le long de la côte méditerranéenne qui monte vers le nord, vers Barcelone. Et là, ils ont été pendant des semaines. Et les gens partaient à pied, bien sûr, comme ils pouvaient. Hein. Et ils ont été bombardés par les nazis, par les avions allemands. Et par les bateaux italiens qui étaient dans la mer, qui lançaient des torpilles à partir de la mer. Donc ils étaient pris entre deux feux. Donc ça c'était en février 37, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premiers jours de la guerre d'Espagne, Hitler était déjà en place. les Allemands, les Italiens étaient déjà en Espagne en juillet 1936.
C'est des avions allemands et italiens qui nous mitraillaient sur la route de l'exil. Et ma mère, pobrecita, nous protégeait comme elle pouvait avec sa couverture de laine et nos livres et cahiers. Pendant ce temps-là, à Paris, on exposait Guernica.
Cet exode des Andalous, tous les Andalous étaient partis de Malaga, là, montés sur Alicante. Et donc, ils ont réussi à passer à outre les bombes et tout. Mais il y a eu des milliers et des milliers de morts. Hein. Et c'était des bombardements, c'était avant Guernica. Guernica, ça a eu lieu en avril 37. Et là, c'était en février 37, la carretera de la muerte, la route de la mort. Et de là, donc, ils sont montés. Petit à petit, ils sont montés jusqu'à la frontière. Hein. Ils sont passés par Murcia, et puis ils sont arrivés à Barcelone, et après ils ont passé la frontière. J'ai des cousins qui sont nés à Murcia, et j'ai mon cousin, ma cousine, qui sont nés à Barcelone, pendant la retirada.
S'acabó la luz, murió la primavera. S'acabaron los sueños, la sonrisa de la vida. El sol se cayó en un mar de sangre roja y negra. Se acabó la esperanza.
Quand je nais sur le camino, ma tante Lola est la première à me laver, à me préparer pour me présenter à ma mère. Mon frère, né le 15 décembre 1938, il ne connaîtra pas mon père. Il sera fusillé dans une prison.
Donc, faut s'imaginer ça aussi, des femmes enceintes qui passent à travers des bombardements, qui devaient être logées. On ne sait pas comment ils pouvaient être logés, certainement. Bon, c'était le sud, même en février, il ne devait pas faire trop mauvais, mais pour eux, même le mois de février 37, il devait faire froid quand même pour eux, les nuits. Donc, quand on s'imagine comment ça a pu se passer, ça devait être affreux, quoi. Des femmes enceintes, des gens qui mouraient à côté de vous à cause des bombardements et tout, ça devait être affreux quand même. Donc voilà, ils ont passé tout ça. Et tout ça, on ne l'a jamais su, ça. Jamais on nous a parlé de ça. Et quand on découvre ça maintenant, on se dit quand même, ils ont dû en passer quand même. Ça devait être dur quand même, très très dur quand même pour eux.
Et en fait, c'est ma grand-mère qui est arrivée avec mon arrière-grand-mère, effectivement. Mon arrière-grand-père, lui, il a disparu dans le camp d'Argelès. On ne sait pas ce qu'il est devenu à ce moment-là. Mais ma grand-mère et toute sa famille, donc ses frères et sa mère, sont arrivés à Angoulême, effectivement.
Je suis Lola. 5 de mes proches ont déjà disparu. Il fait si froid, février 39, sur cette plage d'Argelès. Mon frère Louis s'est entêté, il n'a que 15 ans, bah oui, adolescent. Il triche même sur son âge. Il veut absolument trouver du travail. Alors matin et soir, il va voir le gardien du camp et il demande à trouver du travail absolument. C'est quand même grâce à lui, du coup, qu'on a pu arriver toute la famille ensemble, réunis, enfin ceux qui restaient bien sûr, à Angoulême. On a atterri à Angoulême.
Quand ils sont arrivés, il y avait ma grand-mère, ma mère et mon oncle. Et quand ils sont arrivés, ils ont été à la Combouloux, à Ruelle. Et après, donc, quand ils ont fermé le camp, ils sont allés aux Alliés. Et ma mère travaillait, donc quand on avait un boulot, on pouvait sortir du camp des Alliés.
C'est le docteur Masmotey qui m'a donné ma chance. Que gente más rara los franceses, no? Se comen gatos? Para que tú veas. Cuando les digo que estoy constipada, se creen que estoy estreñida. Vaya, qué barbaridad, sin barba. Pero bueno, me acostumbro, no tengo más remedio. Alors je m'habitue et puis je rejoins ma famille chaque soir au camp des Alliés à Angoulême. Et puis un jour, le 19 août 40, le directeur du camp nous annonce un départ pour l'Espagne le lendemain. J'y crois pas. Tous ces bagages entassés, mais comment on va faire pour les récupérer? Alors, je raconte mon incertitude au docteur Masmotey qui me dit « Lola, moi, je veux protéger votre famille. Allez, ramenez toute votre famille chez moi. » Et puis, si vous le sentez pas, Lola, il faut pas y aller, il faut pas le faire. Alors du coup, on part avec toute ma famille, mais on n'arrivera jamais jusque chez le docteur Masmouda avec toute une série d'histoires. On se réfugie dans un hangar. Ce hangar brûle dans la nuit, et malgré tout, on arrive à survivre. Comme quoi, on a eu de la chance. Ce ne sera pas le cas de ces 927 Espagnols qui sont partis dans ce convoi pour Mauthausen. Seulement 76 survivront.
Oh, la niña bonita. Peu connue que la commune. Dans mon carré, y'a pas d'Afghan, ni Kalash, ni Klop. J'attends mon jugement, enfermé, l'esprit galope. Comme nos graines de liberté qui germent dans les champs électrifiés, au barbelé de nos pensées.
Les personnes qui ont vécu cet exil ont tellement souffert, je pense, de ce qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas voulu raconter. Une fois qu'ils ont refait leur vie et que l'histoire est passée, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient finalement condamnés quelque part à rester en France, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient venir que quelques mois et repartir dans leur pays. Avec la mort de Franco, qui n'a été qu'en 1975, ces réfugiés politiques n'ont pas pu retrouver leur terre jusqu'à ce moment-là. Donc à un moment donné, ils ont mis de côté, ils n'ont pas voulu parler de leur histoire.
Moi, je suis la liberté.
Et moi, je suis l'exil.
Et quand ma grand-mère est décédée, comme l'a dit mon frère, ça nous a ramené à beaucoup de choses. On a fait un voyage familial sur les traces de nos ancêtres à Argelès. Et en fait, on a découvert beaucoup de choses. On savait beaucoup de choses puisqu'on a fait des recherches et que mon père est président de l'association des Espagnols d'Angoulême. Et son travail, c'est justement de travailler sur la mémoire pour pas qu'on oublie et pour pas que ça se répète. Et donc nous, en fait, quand on est arrivés tous à Argelès, quelque part, on a pris une claque qui nous a aussi poussé à développer ça et à utiliser ce qu'on savait pour transmettre aux gens.
Retour à l'ordre moral, à la diète et à la prière. Ça fait des mois qu'on a oublié de rire à force de voir mourir, à force de marcher dans le cauchemar et la merde des autres. Mais pourquoi ? Pourquoi les gendarmes français ressemblent-ils autant aux Espagnols dans leur méchanceté? Ils disent qu'ils ne font que leur travail, mais certains font vraiment bien leur travail. Et d'où viennent ces grands noirs qui nous surveillent? C'est des soldats de l'armée française? Enfin, de l'Empire français? À Rivesaltes, c'était des Arabes qui nous gardaient.
Et du coup, moi, je me suis mis à faire des sculptures de... on va dire des installations en art contemporain pour évoquer cette période sans que ça soit des reportages en noir et blanc comme on peut voir sur Arte. Et du coup, au fil des rencontres avec les différentes associations et les derniers survivants un peu des camps de Mauthausen, mais aussi des camps qu'il y avait eu en France, et j'ai découvert une histoire qu'on ne m'avait pas racontée dans les livres scolaires. Je travaillais beaucoup à Ruel, où il y avait un camp où des Espagnols ont été internés, et il se trouve qu'il a été transformé en terrain de foot, et c'était là où moi, jeune, je jouais au foot. Et la ville de Ruel m'a commandé des textes et des expositions pour évoquer cet épisode de l'histoire pour les plus jeunes. On a réussi à faire mettre maintenant une stèle à cet endroit-là. Moi, j'ai été en février à 6h du matin pour écrire mes textes là-bas, pour ressentir ce qu'ils ont pu ressentir. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me dire « mais c'est fou cette histoire », parce qu'ils nous racontaient qu'ils traversaient les Pyrénées dans le froid. Et on ne se rend pas compte tant que aussi d'un seul coup, moi, je me suis mis à leur place et ça m'a fait écrire plein de choses.
Tout le monde criait « non pasaran », mais un peu partout ils passent. Et ils passeront. Nous, on croyait que les Franchutes étaient comme ceux des brigades internationales, et on connaissait tous la devise de ceux qui s'étaient libérés des rois et de la religion. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, c'est Voltaire qui enfonce les piquets et Molière qui déroule le barbelé. T'as vu là-bas ce qu'ils ont fait à Garcia Lorca? Hey, c'était pourtant pas Jaurès ni Ravaillac. Il lui aurait mis un pistolet où je pense pour l'exécuter au pied d'un olivier. Mort au poète qui disait, mort au PD. Vive la mort, criait le capitaine Mola. Abat l'intelligence. C'était ça leur slogan. Esa canalla de facha de mierda. Pourtant,
on a cherché mon grand-père et qu'on l'a jamais, on n'a jamais su ce qu'était devenu mon grand-père. Et ça, je pense que ça a été pour elle quelque chose d'assez, d'assez atroce. D'ailleurs, elle était toujours en noir, ma grand-mère. Et ils avaient fait des recherches pour le retrouver, mon grand-père. Et jamais, on n'a jamais su ce qu'il était devenu. On n'a jamais fait le deuil de sa disparition. Jamais, on ne sait pas. On sait pas. Peut-être que maintenant, si un jour, peut-être maintenant, comme on peut peut-être ouvrir certaines fosses communes, peut-être qu'on le retrouvera là, puisque c'est ce qui se fait en Espagne maintenant. Il y a des associations qui sont formées pour ouvrir ces tranchées. Et peut-être par les ADN, peut-être qu'un jour on saura, je ne sais pas. Mais bon, j'ai aussi le frère de ma mère qui lui, on sait qu'il a été fusillé. On sait dans quel cimetière il a été fusillé. Et là, on est en train de faire des recherches là, pour savoir si vraiment il est là. Mais lui, bon, on sait sa destinée. Mon grand-père, non. On n'a pas su. Mère, voilà, la pauvre, elle a, toute sa vie, elle est restée avec, avec ce point d'interrogation, certainement. Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je pense que ça devait être dur pour elle. Ma mère aussi, certainement. Hein, parce que le grand-père, on en a parlé beaucoup à la maison. Hein. Mais pour eux, oui, ça a dû être quelque chose d'affreux. Ouais. Ma mère racontait beaucoup de choses assez rigolotes avec son père. Et souvent, de fois, ça ressortait. Ça ressortait à la maison, et voilà. Donc, elle parlait de son père comme ça. Elle parlait de son père lorsqu'il travaillait. Il travaillait dans un bar, dans le bar de son frère à Malaga. Et son frère faisait partie de l'autre bande. Et ça aussi, elle nous en parlait beaucoup. Hein. Des frères qui étaient restés là-bas et qui étaient franquistes, quoi. Donc ça, oui, on parlait. De temps en temps, on avait ces informations quand même.
S'apagó la luz, murió la primavera, acabaron los sueños, la sonrisa de la vida. El sol se cayó en un mar de sangre roja y negra. Se acabó todo, se acabó. Aún todo se acabó. Nuestro amor nunca acabará.
C'était La famille Lazzaro. Un grand merci à Gregorio, Didier et Emeline Lazzaro. Extrait du spectacle Flamenco, Una República de Dolores. Extrait des chansons de Didier Lazzaro, Se Acabó et Emancipación. Réalisation, prise de son et montage, Agnès Gontier. Mixage, Sofia Riboloff. Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore, soutenue par la Région Occitanie et la Direction régionale des affaires culturelles. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr. Découverte, initiative écologique, Parlons Nature, une émission de résonance sonore. Le dessement des Pyrénées, surnommé le rat trompette, est peu connu et assez rare. Cependant, nous savons qu'il vit dans le fond de la vallée d'Aston, dans les Pyrénées ariégeoises. Nous sommes partis à sa recherche.
Alors là, ça fait une heure qu'on est en train de marcher dans les cailloux et dans l'eau. Je suis avec Pauline Levenard de l'association des naturalistes d'Ariège. Mais Pauline, est-ce que tu peux expliquer là, qu'est-ce qu'on fait ici en fait ?
Mais on cherche les indices de présence du décement. D'ailleurs, il faut faire attention, hein, dans le ruisseau, ça glisse beaucoup là. Donc il faut bien se tenir avec le bâton. Et avec la lampe, là, on va aller chercher ces indices de présence. Au final, c'est les crottes. Donc là, il y a un bloc au fond, on va aller regarder. C'est des blocs qu'il y a en fait juste au-dessus de la surface de l'eau, entre deux blocs. Et là, on va regarder tout au fond, là où c'est un peu caché des prédateurs, hein, de la prédation. Le décement va aller poser ses crottes. Donc c'est ça que l'on recherche, puisque c'est le plus simple à trouver, hein, pour savoir s'il est présent ou pas.
Bon, on se rapproche des blocs alors.
on peut voir que c'est... c'est pas une crotte de Desmond, donc on va la regarder. On peut voir que ça a un aspect un peu huileux, mais ça n'a pas l'odeur du Desmond, non, c'est une musaraigne aquatique. Donc la musaraigne, on peut voir que c'est une crotte toute petite, alors que le Desmond, j'espère en retrouver quand même sur ce tronçon puisqu'il est présent, hein. Donc c'est un peu plus grand et a une odeur un peu plus forte.
Tu dis l'odeur du Desmond, il a une odeur donc.
L'odeur de la crotte du Desmond. Oui, il a une odeur et mon collègue en parlerait très bien. C'est une odeur de miel et d'encens, un mélange. Ce n'est pas comme les autres espèces ou les carnivores où il ne faut surtout pas s'approcher. Là, le Desmond va manger des insectes dans la rivière, donc ça n'a pas une odeur désagréable.
Mais... Tu me parles du Desmond, mais en fait, moi, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que c'est le Desmond, si j'en vois. Parce que là, on cherche les crottes, mais imaginons, parce que j'ai bien compris que c'était très, très difficile à trouver. Si je vois quelque chose qui bouge dans l'eau, qui ressemble à une musaraigne, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à une musaraigne. C'est la famille de la taupe, donc les talpidés. Et ce Desmond, ça va faire à peu près 25 cm de long avec... la moitié pour la queue, et ça ressemble, oui, un peu à une musaraigne, sauf qu'il a vraiment la particularité d'avoir une trompe préhensile comme l'éléphant, et grâce à cette trompe, il va aller chercher les insectes aquatiques que l'on retrouve dans la rivière. C'est un petit mammifère semi-aquatique, plutôt marron, gris. Il va travailler principalement avec sa trompe puisque son appareil auditif et visuel est très très réduit. Voilà, donc en fait il va se déplacer dans la rivière avec l'aide de ses pattes. Hein. Il a la particularité d'avoir des pattes palmées à l'arrière et des griffes très importantes à l'avant pour pouvoir s'agripper sur les cailloux et pour pouvoir nager avec les pattes arrière. Voilà, après il a sa queue qui va faire gouvernail. Voilà comment il va se balader dans la rivière et se nourrir avec les insectes que l'on retrouve au fond de l'eau.
Pauline, avant de te rencontrer, je ne connaissais pas le Desmond. C'est une espèce rare. Comment on ne m'avait jamais parlé de sorte de taupe musaraigne avec une trompe. C'est quand même un peu étrange comme animal.
Alors oui, d'ailleurs on l'appelle aussi le rat trompette. C'est une espèce qui a été découverte en 1811, alors il me semble vers la vallée de Tarbes. C'est une espèce qui a été découverte assez tardivement puisque c'est une espèce très furtive. On peut se trouver à un mètre d'elle au bord de la rivière et on ne la verra pas parce qu'elle se confond avec le fond des cailloux. Là, on peut voir la couleur des cailloux dans la rivière. Le Desmond, non, avec le courant, on aura vraiment du mal à le voir. Et c'est pour ça qu'on l'a découverte très tardivement et que c'est une espèce au final peu connue auprès du grand public. Et même auprès des scientifiques, on est toujours en train d'apprendre un peu sur le comportement de cette espèce. On n'a toujours pas vu de reproduction de Desmond, par exemple. Et c'est une espèce que l'on retrouve que dans les Pyrénées, Pyrénées françaises, espagnoles, puis un peu aussi au nord du Portugal. C'est une espèce qui est en voie de disparition au final, puisqu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait il y a plus d'une vingtaine d'années où il était présent presque en plaine. Aujourd'hui, on le retrouve sur des rivières peu polluées, sur des rivières préservées, donc ça va être plutôt sur les parties montagneuses.
Tu me décourages un petit peu parce que tu viens de me dire que même s'il était là, on aurait très peu de chances de le voir parce qu'il se tapit dans le fond, c'est ça, de la rivière ?
Eh oui, j'ai pas précisé, mais en fait, quand je dis que l'on va chercher le Desmond des Pyrénées, on va chercher les crottes, on ne va pas chercher le Desmond des Pyrénées. Voilà, donc déjà, les crottes, aujourd'hui, c'est difficile de les trouver. On est content quand on en trouve. Mais alors, le Desmond, on a de la chance d'en voir lorsque l'on fait des captures pour justement apprendre un petit peu de son comportement. Mais c'est très, très rare. Il y a certains pêcheurs qui ont la chance de pouvoir le voir, quelques randonneurs, mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir la chance de le voir dans son milieu.
Bon ben, on va continuer alors à marcher dans l'eau avec nos petites lampes torches pour regarder sous les rochers. Mmh. Et puis, avec un peu de chance, j'aurai peut-être la chance de sentir une crotte de Desmond alors.
Ah, on espère, oui, on va continuer. On a encore à peu près 100 mètres à faire sur un tronçon où là, on pense qu'il normalement, il y en a, hein, parce qu'il n'y en a pas partout sur le bassin versant de l'Aston. En tout cas, on ne l'a pas retrouvé partout. puisque, comme je dis, on cherche les crottes. Mais il y a des endroits où le substrat, le bloc ne sera pas favorable pour qu'il aille déposer ses crottes, donc on ne sait pas s'il est présent ou pas. C'est assez difficile de pouvoir le rechercher partout là où on le souhaite.
C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.